Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Et je vais donner une info football. Vous savez que le championnat portugais a repris. Oui. J'en parle parce qu'on va parler du Portugal tout à l'heure. Le FC Porto a marqué 2 buts. Le buteur s'appelle Jesus Corona. Voilà, ça ne pouvait pas s'inventer. Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Dans un instant, le journal de la culture. En studio avec nous, l'auteur Enki Bilal pour son dernier roman Nu avec Picasso. Ce n'est pas de la BD, c'est un récit déjanté. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu, quoique habillé. Et puis dans les indispensables, une série sur l'histoire portugaise, je l'ai dit, et un essai sur le quotidien des routiers.
Vous l'avez perdu là.
Bonjour les Manarino qui ont fou rire. Qu'est-ce qui vous arrive, Hélène?
Jésus Corona. Mais
votre humour me fait rire. Bonjour Philippe Vandel.
C'est pas de l'humour, c'est une info. Il s'appelle Corona, il a mis 2 buts.
Oui, enfin, je m'y attendais pas, c'était inattendu quand même.
C'est voilà. Le principe d'une blague. On commence ce journal de la culture, Hélène, avec Solidarité Sida, l'association qui a plus que jamais besoin de dons.
Oui, avec le festival Solidays annulé cette année, Luc Barruet, le directeur fondateur de Solidarité Sida, lance un appel aux dons pour trouver 1 million d'euros. En effet, avec l'annulation du festival, l'association est véritablement menacée. Cela représente une perte de 3,2 millions d'euros pour Solidarité Sida. Ils récoltent des dons habituellement grâce à leurs différentes initiatives. 228 000 spectateurs étaient attendus au festival Solidays cette année. Alors pour faire un don, un lien est en ligne sur le site du festival. Celles et ceux qui avaient des billets pour l'édition 2020 peuvent aussi choisir de ne pas se faire rembourser. Certains festivaliers ont également acheté des billets en dépit de l'annulation pour l'association.
Et puis on reste dans le domaine des festivals, mais avec cette fois une bonne nouvelle, c'est pour les vieilles charrues 2021.
Et oui, annulée cette année, les Vieilles Charrues avaient programmé Céline Dion. Les organisateurs viennent de confirmer la présence de la star internationale. Et oui, en 2021, ce sera le jeudi 15 juillet. Les billets achetés pour cette année sont valables pour l'an prochain. Et puis la chanteuse en a profité pour annoncer ses dates françaises. Elle viendra en France pour son Courage World Tour. 6 dates sont prévues à Paris La Défense Arena en mars 2021.
Des mesures de soutien annoncées pour les librairies.
Très touché par la crise sanitaire, le monde du livre a donc besoin de fonds de soutien. Des mesures vont donc être mises en place, annonce des ministres de l'économie et de la culture. 230 millions d'euros sont mobilisés par l'État pour ce domaine depuis le début de la crise sanitaire. Alors quels sont les nouveaux dispositifs? 25 millions d'euros seront à destination des librairies indépendantes. 5 millions d'euros pour les petites maisons d'édition. Une enveloppe de 12 millions d'euros servira à moderniser les équipements des librairies et à mettre en place les plateformes de vente à distance. Ces fonds de soutien répondent entre autres à l'appel des 600 éditeurs et libraires fin mai publié dans une tribune afin de sauver la filière du livre.
Et cette fois-ci, ce sont les photographes qui interpellent Emmanuel Macron.
Dans une tribune publiée dans le journal Libération, 700 photographes, journalistes et auteurs demandent un plan de financement et de subvention. Ils sont très impactés par la crise sanitaire. Parmi les signataires, on retrouve notamment Yann Arthus-Bertrand. Dans les mesures annoncées par le président de la République pour relancer la culture, rien n'avait été précisé pour les photographes.
Et puis une autre bonne nouvelle, une œuvre de Banksy volée au Bataclan qui a été retrouvée en Italie.
Une œuvre hommage aux victimes des attentats de novembre 2015, attribuée à Banksy, volée en janvier 2019. Elle se trouvait sur une porte à l'arrière du Bataclan représentant une jeune fille triste. La porte avec donc l'œuvre dessus a été retrouvée dans le centre de l'Italie, dans une ferme, retrouvée grâce à une enquête menée avec la police et justice française.
Et puis Hélène, vous connaissez la présidente du jury de la 46e édition du Festival de Deauville.
Le festival du cinéma américain sera présidé par Vanessa Paradis. Il se déroulera du 4 au 13 septembre. Elle succède à Catherine Deneuve, Sandrine Kiberlain et elle remettra le Grand Prix pendant la cérémonie de clôture. Nous ne connaissons pas encore les films en compétition. Néanmoins, Deauville mettra à l'honneur Kirk Douglas, disparu le 5 février dernier. Un hommage lui sera rendu. Les conditions sanitaires du festival ne sont pas encore connues, mais il sera solidaire de l'industrie du cinéma mondial touchée par la crise sanitaire. Cette solidarité se traduira par un accueil du Festival de Cannes et du Festival international du film d'animation d'Annecy. Le public pourra découvrir sur grand écran les films qui devaient être présentés.
Et on va parler de la sortie d'un nouvel album et là, attention, une personnalité extraordinaire.
Et oui, puisqu'il s'agit du Dalai Lama. Information de The Guardian, le dirigeant spirituel du Tibet sortira ce disque le 6 juillet prochain pour son 85e anniversaire. Il récitera des mantras sacrés et des enseignements accompagnés de musique jouée sur plus de 30 instruments, 5 ans de travail, Philippe. On écoute un extrait, ça s'appelle Compassion.
Oh,
voilà, ça détend.
Ah, hein, j'adore.
C'est agréable. L'album s'intitule Inner World. 11 titres sont prévus. Le but pour le Dalai Lama, véhiculer un message de tendresse et surtout dire l'importance de prendre soin des autres. On en a besoin.
On en a besoin et ça change de Reine des Neiges. Une comédie musicale qui se prépare avec des chansons, de Lionel Richie.
Et oui, préparé, ça danse hein, dans le studio. Ouais. Hein, préparé par Disney après Bohemian Rhapsody sur l'univers de Queen, Rocketman avec les titres de Elton John, les titres de Lionel Richie seront donc au cœur du prochain projet de la firme internationale. Information de Variety. Alors, il s'appelle pour le moment All Night Long. Le film devrait ressembler à la comédie musicale Mamma Mia. Lionel Richie a affirmé que de grandes choses étaient à venir. C'est une idée du chanteur qui, je le rappelle, a vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde.
Mon Dieu. On va terminer par le nouveau single du chanteur Amir.
Après plus de 650 000 albums vendus, le single de son troisième album est sorti et il s'intitule La Fête. On est tous nés pour faire la fête, comme si on n'avait jamais fait la fête. On est tous nés pour faire la fête, au pire on l'a fait dans nos têtes.
Mais les filles, elles se tiennent plus. Elles sont en mode Corée assise.
Ouais, c'est la fête.
Hein, bah c'est la fête. Et oui, message très clair dans cette chanson, le lâcher prise.
Ah oui.
Fêtons la vie tous ensemble, profitons de l'instant présent. Titre composé et écrit par Amir. Le clip est attendu pour le 17 juin et son nouvel album à l'automne prochain. À partir du 19 juin, il sera possible de réserver vos places pour sa tournée en 2021. Faites la fête. Voilà.
Merci beaucoup Hélène Manarino. À tout à l'heure, on vous retrouve pour le portrait inattendu.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est très heureux d'accueillir Enki Bilal.
Star mondiale de la BD, dessinateur, scénariste, je vais citer La Foire aux Immortels, La Femme Piège, Partie de Chasse, la trilogie Nicopole, des millions d'albums vendus en 45 ans de carrière. Vous êtes peut-être le dessinateur français vivant le plus connu de cette génération. Réalisateur de cinéma aussi, vous avez tourné 5 films, je crois, Bunker Palace Hotel, 3, Tico Moon avec Michel Piccoli, mais là vous venez pour Nu, Piccoli, pardon. Et là vous venez pour Nu avec Picasso, c'est chez Stock. Il faut le citer, dans la collection Ma nuit au musée. Avant qu'on parle du livre, expliquez, Enki Bilal, l'idée de cette collection.
Alors, l'explication est dans le titre. La nuit au musée, c'est l'édition Stock. Et c'est Alina Gourdiel qui est à l'origine de cette idée. Proposer à un auteur, un écrivain ou un artiste de passer une nuit. Dans un premier temps, c'était le musée Picasso. Donc moi, ouais. Je fais partie de ce convoi-là. Et chacun passe une nuit et chacun revient seul. Donc hein, on est seul, enfermé dans le musée. Et on revient avec une idée de livre ou pas. Mais en tout cas, carte blanche pour faire quelque chose.
Attendez, il y en a qui sont endormis et qui n'ont rien fait.
Tout le monde est revenu avec des idées et surtout, tout le monde a fait un livre.
Vous avez donc vraiment passé la nuit au musée Picasso sans gardien ?
Les gardiens, il y en a deux, mais je ne les ai pas vus.
D'accord. Sans dormir ?
Alors, j'ai pas pu dormir. Je m'allongeais de temps en temps sur le lit de camp. On partage tous le même lit de camp.
Il y a un lit de camp, ce qu'on appelle un lit militaire, un lit picot, que vous avez dessiné. Ouais.
Et évidemment, j'ai essayé de somnoler dessus, ça ne marche pas. Les lumières sont tamisées, très important. Donc, c'est assez fantomatique, c'est assez beau, le rapport aux œuvres de Picasso, comme ça, de déambuler. Donc, j'ai passé mon temps à déambuler, à m'allonger. J'ai mangé quand même le plateau qui avait été prévu pour mon dîner, un plateau en plastique. C'était pas si mauvais que ça, mais ce qui m'avait énormément déçu, et j'aurais dû prévoir, c'était le gobelet en plastique et l'eau plate.
Voilà.
Voilà, il manquait quand même un bon verre de Bordeaux ou de vin.
Si je devais faire un calembour pour la une de Libé, je dirais de Picasso à Picassiette. Vous commencez par un conseil de l'auteur au lecteur pour lire le livre. Vous demandez à ce qu'il ait des images à côté de lui.
Oui, c'est mieux. Enfin, c'est plus agréable.
Pour qu'on ait en tête les tableaux.
D'avoir Guernica, une reproduction de Guernica, de voir ce que c'est. Parce qu'à un moment donné, il y a une mise en scène, entre guillemets, de la pose, de la séance de pose des modèles. Modèles pour l'œuvre de Picasso, ce tableau gigantesque qui est son engagement politique aussi contre le fascisme. Donc voilà, c'est tout. Il vaut mieux avoir ça sous les yeux. Oui.
Puisque vous en parlez, je vais en parler maintenant. Ça m'a m'a beaucoup fait rire. Vous faites dire à une femme qui est là, comme si Picasso avait demandé à des gens de venir poser. Alors, il faut raconter quand même que c'était un bombardement d'un village par les franquistes soutenu par Hitler. Vous faites dire à une femme, il faut que mon cou parte à la verticale et que ma langue pointe vers le ciel. Je répète depuis plusieurs jours, j'ai très mal au cervical. Mon air hypoglosse est enflammé et je n'arrive plus à allaiter mon petit qui, lui, doit poser la tête en bas, renversée. Évidemment, personne n'a jamais posé. Et le petit s'appelle Pablo.
Donc, tout ça est évidemment absolument faux. Apocryphe, mais si on regarde le tableau de Picasso, on voit qu'effectivement, les femmes qui hurlent sous les bombes ont la tête renversée complètement vers le haut, la langue effectivement qui pointe, et le pauvre petit bébé, il a la tête en bas et il finit même par baver dans ma main. Alors, parce que moi, je suis en dessous, je pose pour un soldat qui est couché au...
Bien sûr. De... Et alors, ça s'appelle donc Nu avec Picasso, et tout le monde est à poil. Hein. Il y a Goya, Charlotte Corday, Cassine Mara, elle est toute nue. Et je vous cite, vous écrivez, « Picasso est là, il me voit, il est nu aussi. Son corps court et posé sur des jambes aux mollets que j'aurais imaginé plus fort. » Et ça va même plus loin, parce que vous êtes nus tous les deux et vous observez, « Nos sexes sont de dimensions à peu près identiques, mais le sien paraît plus important. » Avantage classique de l'homme de petite taille. Je me dis, mais pourquoi ces considérations, Inky Bilal?
Parce que c'est comme ça. On peut imaginer des choses comme ça. Le sexe, c'est quelque chose qui n'est pas en rapport avec la taille de la personne.
Non, j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans un livre d'art d'un type comme vous qui parle du musée Picasso?
Alors, non, la nudité. Pourquoi la nudité? Mais c'est d'abord une mise à nu de la création, du système de création. C'est le principe. Moi, je suis parachuté, même pas parachuté, je suis propulsé dans ce lieu. Je ne sais pas ce que c'est. Je comprends que c'est un lieu qui s'appelle PP, donc je pense que c'est une prison politique à un moment. Ouais. Non, c'est Pablo Picasso. Et donc je suis dans ce lieu et je deviens un sujet à la fois d'expérimentation pour Picasso qui veut m'utiliser sans doute comme modèle, mais c'est surtout une confrontation entre artiste et pour moi. C'est l'occasion aussi d'explorer ce système de création entre le dehors et le dedans. Voilà. Mais ça s'est vraiment passé.
Ouais, ça s'est vraiment passé. On ne vous demande pas ce que vous avez pris. Il n'y a pas eu que de l'eau dans les gobelets. Vous restez avec nous, Inky Bilal. Et puis, il y a des dessins, j'en ai pas encore parlé, absolument prodigieux dans ce petit livre.
La suite dans Culture Média, c'est comme chaque jour le portrait inattendu d'Hélène Manarino. Et ce matin, on a hâte de découvrir celui de notre invité, Inky Bilal, sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Inky Bilal, vous connaissez Hélène Manarino?
Oui.
Ah ben voilà.
J'ai peur.
Vous n'avez aucune raison d'avoir peur.
Non, bonjour. Pas du tout.
Rebonjour Hélène.
Rebonjour Philippe. Bonjour Inky Bilal.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors on va tenter de vous surprendre, même si, disons-le tout de suite, vous détestez les surprises. Ça vous met mal à l'aise. Alors je vous rassure, nous n'avons fait venir personne dans le studio pour vous surprendre. Alors Inky Bilal, si vous êtes d'accord, on va partir un peu dans les étoiles. C'est finalement une évidence puisque vous êtes passionné par l'espace. Vous connaissez tout par cœur. Vous avez suivi SpaceX en direct. Vous passez votre temps à expliquer à vos proches où se trouve la grande ours, la petite, comment se passe la galaxie, comment fonctionnent les étoiles. Et depuis tout petit, un univers qui vous laisse donc votre âme d'enfant. Et cela s'est vu par exemple lorsque vous avez rencontré pour la première fois Jean-François Clairvoy, le spationaute, vos yeux se sont émerveillés. Il vous a montré les photos de ces missions. Vous avez été assez bouleversé puisque ce sont des images que vous aviez devant vos yeux très jeunes. Aujourd'hui, vous échangez des textos avec lui et Thomas Pesquet aussi. Une admiration mutuelle d'ailleurs. Alors Inky Bilal, dans votre galaxie à vous, il y a beaucoup de choses et on va contempler tout ça. Votre grand ours, c'est votre grand chat, Youk, que vous avez eu pour votre anniversaire. Ce chat, d'ailleurs, est né le même jour que vous, le 7 octobre.
Ah oui ?
C'était une évidence.
Il a quel âge, le grand chat ?
On a le même âge.
Salut Youk,
il a déjà 16 ans, mais il ne les fait pas, vraiment pas.
Comme vous.
Votre amour pour les animaux a toujours été présent dès l'enfance. Lorsque vous étiez envoyé dans la famille de votre père, une tante vous a donné un lapin. Vous pouviez le garder pendant toute la période des vacances, sauf que le jour de votre départ, vous avez retrouvé ce lapin dans un sandwich.
Non.
Et cela vous a traumatisé. Et depuis, le lapin est devenu intouchable.
Et je n'ai plus jamais parlé à ma tante.
Voilà.
Donc histoire authentique.
Histoire authentique.
Incroyable.
Les animaux vous ont joué quelques tours, comme en Égypte où vous avez décidé de faire un tour en cheval avec votre épouse qui maîtrise à la perfection l'équitation. Le guide l'a remarqué, ils ont donc décidé de partir au galop et votre cheval a évidemment suivi, sauf que vous n'aviez pas la même expérience.
J'ai failli dévisser volontairement. Je me suis dit à un moment donné, il vaut peut-être mieux que je saute en marche.
Que je me laisse glisser.
Ouais. Ouais. Et je sais pas pourquoi ça m'a. Je me suis retenu, j'aurais pu me tuer.
Et ça s'est fini comment?
Bah, ils ont fini par se rendre compte que je paniquais derrière. Ils ont ralenti, le cheval, tout simplement, il a ralenti, il a suivi ses compagnons, ses potes.
Alors Enki Bilal, pour habiller un peu toute cette constellation de souvenirs, mettons un peu de musique. How I wish you were here. Un bon Pink Floyd dont vous êtes fan, cela vous replonge dans le passé. Alors en réalité, vous écoutez de tout Enki Bilal. Alors quand je me renseigne sur vos talents de danseur, en revanche, on me répond « Celui qui le verra danser un jour n'est pas né ». Ça le mérite d'être clair. Alors sur votre planète, il faut avant tout du chocolat, beaucoup de chocolat, vous adorez ça. Ah oui. La presse aussi, c'est votre rituel le matin, vous partiez d'ailleurs régulièrement au café en passant par le kiosque pour lire à la fois la presse nationale d'info, la revue ultra-scientifique, l'équipe. Alors vous êtes calé sur tout, vous vous passionnez également de tout, mais il y a quand même un domaine qui est un peu votre extraterrestre, la technologie, seul domaine où les objets peuvent vous résister et vous n'aimez pas ça. Pourtant, vous maîtrisez des choses très complexes, mais quand par exemple on vous demande votre identifiant Skype, vous êtes incapable de le donner.
Confirme.
Ça, il y a encore quelques jours.
C'est vrai.
Ouais, ouais. Je décode, je m'y perds, je les note, je ne sais pas à quoi ça sert. Enfin bon, bref, c'est une catastrophe.
Quand
l'objet me résiste, j'ai envie de le casser et je préfère remplacer quelque chose qui ne marche pas une fois plutôt que d'essayer de réparer.
Non, c'est pas vrai, vous n'avez pas racheté un téléphone portable parce qu'il vous manquait un code.
Je peux.
Oh, Hélène.
Des objets qui vous résistent pour surtout des choses que vous perdez. Véritable tête en l'air, Enki Bilal, vous perdez tout et surtout vous ne retrouvez jamais rien. Voilà. D'autres choses vous agacent, comme le bruit des pavés avec votre valise à roulettes en Lausanne. Mais surtout, le fait de devoir attendre
mais
la suite.
Quelles indiscrétions.
Attendez, c'est que le début.
Mais surtout, le fait de devoir attendre la suite de la série Peaky Blinders. Sportif dans l'âme, ça a démarré petit lorsque vous jouiez au foot à Belgrade et que le sélectionneur vous a repéré pour rejoindre l'équipe des Poussins. Des entraînements aussi avec vos copains dans ce grand parc, j'espère le prononcer correctement, à Calais-Magdan. C'était juste en face de
pas
chez
mal.
Vous. Vous passiez votre temps dans ce grand parc qui ressemblait à un musée à ciel ouvert. Alors vous êtes resté amateur de foot aujourd'hui, un peu du PSG, il faut le dire. Les matchs à enjeu, comme on dit, peuvent vous mettre dans votre véritable bulle. Vous n'entendez plus, vous êtes concentré et il ne faut surtout pas vous déranger. C'est le cas aussi pour le cinéma. Vous êtes capable de regarder un film par jour, vous avez une salle dédiée. Alors, mais vous êtes sympa, vous pouvez dire notamment à votre épouse « Tu devrais regarder tel film, même si vous venez de le voir, vous êtes capable de le revoir dans la foulée.
Ah » oui.
Âme d'un compétiteur, finalement, tous les sports vous galvanisent sur écran, le rugby, le basket, l'athlétisme. La seule chose qui ne vous intéresse pas, c'est le bateau. Pourtant, vous adorez la mer et on vous a toujours associé à la couleur bleue. Une couleur bleue qu'on a aussi envie d'associer à l'un de vos amis, une de vos étoiles qui brille aujourd'hui. Le chanteur Christophe, disparu il y a 2 mois, c'était votre ami. Vous aviez travaillé ensemble sur certains de ses concerts et vous enchaîniez surtout les parties de poker. Alors Enki Bilal, vous avez également un talent caché qu'il faut dévoiler ce matin. Vous avez une passion pour la cuisson des viandes, des volailles.
Et des poissons aussi.
Et des poissons. Ah. Et votre ami Alain Passard vous a d'ailleurs confié que vous étiez un rôtisseur. Eh oui. Alors véritable passionné Enki Bilal, plusieurs planètes vous passionnent. C'est votre espace que vous organisez depuis toujours à votre manière, avec précision et talent, et c'est pour ça que vos étoiles brillent toujours.
Merci beaucoup, Hélène. Réaction ?
Merci. Ah bah écoutez, non, ça demande évidemment énormément de réponses.
Mais tellement.
Mais c'est.
Et maintenant, si je me trompe
que
pas.
Que de vérité là-dedans.
Ouais. Et Alain Passard, ouais. Il ne fait pas que des légumes ?
Ah non.
Ah bon ?
Ah bah vous n'avez jamais mangé avant les légumes ?
Non, je me trompe, tant mieux.
Volaille, c'est un grand spécialiste de volaille aussi. Technique héritée de sa grand-mère. Enfin bon, magnifique.
Merci beaucoup, Enki Bilal. Merci, Hélène.
Avec plaisir.
Merci
à demain.
Merci.
À suivre dans Culture Média, nos indispensables. Ce sera avec notre invité, Enki Bilal, sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
C'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour. Dans un instant, Nicolas Carreau nous parlera du livre routier. Mais avant, on s'intéresse à celui de notre invité, Enki Bilal, nu avec Picasso, dans la collection Ma nuit au musée chez Stock.
Et justement, ce musée, c'est le musée Picasso, dans lequel vous avez passé une nuit tout seul, au milieu des chefs-d'œuvre de Picasso, sans les gardiens. Vous croisez notamment Dora Maar, une des muses de Picasso, elle est nue également. Goya, lui aussi, est nu comme un ver. Vous aussi. Vous insistez tellement sur ce point, et c'est le titre du livre, vous étiez vraiment à poil dans le musée ou non ?
Vous êtes curieux quand même.
Bah, ça s'appelle Nuit à Picasso. Si vous faisiez un livre sur la bouillabaisse, non, j'aurais dit c'est quoi votre recette.
Sérieusement, ce livre était tellement inattendu pour moi. C'était pas du tout prévu. C'est un temps court, hein, ouais. Un livre comme ça.
Bien sûr.
Et moi, je suis sur des dossiers très longs. Donc, j'ai fait ce livre. À un moment donné, je m'y attendais pas. J'ai accepté. Je l'ai fait dans un grand plaisir d'écriture. À tel point qu'aujourd'hui, quand je le relis, je l'ai relu quand même physiquement en livre. Je suis pas loin de penser que j'ai vraiment vécu ça.
Ouais. Non, c'est, et je vous crois.
C'est un effet de surprise. Voilà. Dans le temps qui est le mien dans la création, ça a pris tellement peu de temps, c'est tellement dense, tellement compact, que, allez, j'aime bien dire que c'est peut-être ce que j'ai vécu vraiment.
Alors, c'est pas seulement des mots, je l'ai dit, il y a des dessins de votre main, et quasiment, j'ai trouvé une image extraordinaire, j'allais dire, tiré d'un chef-d'œuvre, mais c'est presque un chef-d'œuvre ce que vous avez fait là, c'est tiré de Guernica, c'est un visage cubiste à la Picasso, je vais le montrer à la caméra pour les gens qui nous voient sur europe1.fr, visage cubiste à la Picasso, donc dessiné par Picasso, visage emblématique de cette souffrance de la guerre, sur lequel vous avez mixé le visage d'Adolf Hitler. Vous avez fait ça dans le musée, vous dessinez dans le musée, ou c'est ensuite en rentrant chez vous ?
Non, je n'ai pas du tout dessiné dans le musée, je n'ai pas pris une note dans le musée. J'ai pris des photos, ouais. Énormément de photos, et j'ai écrit, je me suis mis à écrire un mois et demi après seulement. Donc c'est une espèce de maturation, mais je ne pensais plus du tout à ça. Et puis à un moment donné, Alina me dit, mais Enki, où est-ce que tu en es de ton... Je dis effectivement, et là je me suis mis dans... Alors... Le Picasso, là, que j'ai, à la manière de Picasso, Hitler, oui, j'ai été voir si Hitler avait été dessiné par Picasso. Pas du tout, jamais. Par contre, je vois que Staline l'a été. Et Staline a été dessiné par Picasso.
Et vous dessinez à un moment donné Staline, Marx, Mao et oui, Jean-Louis, le quatrième. Vous lisez quoi en ce moment ? Vous lisez des romans ? Vous lisez des essais ?
Écoutez, non, là, je lis pas de romans en ce moment, et j'en lis très peu d'ailleurs de romans, c'est dommage. Parce que simplement, quand j'entre dans un roman, au bout de 3 pages, je m'arrête sans m'en rendre compte et je reste une demi-heure sur une idée qui a germé, provoquée par cette lecture-là. Voilà.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un essai, justement. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Philippe.
Et ce matin, Nicolas, vous nous emmenez sur les routes. Et ça, c'est la musique d'un film, c'est le bras de fer avec Sylvester Stallone, c'est ça ?
Ben oui, Over the Top, l'histoire d'un routier champion de bras de fer. De loin, ça n'en a pas l'air, mais c'est une histoire bouleversante. Et le livre dont je vous parle aujourd'hui est tout aussi délicat, ça s'appelle Routier au pluriel, et ça parle des routiers donc, il n'y a pas de piège. Ce n'est pas Stallone qui l'a écrit, mais Jean-Claude Raspienjas, aucun lien. Jean-Claude Raspienjas, il est journaliste pour La Croix, je ne le connais pas personnellement, mais je sais que c'est un type très cultivé, érudit, bien sous tout rapport. Pull à col rond, chemise bien repassée. C'est pour ça que j'ai été un peu surpris quand j'ai reçu son livre. Routier, donc, avec une très belle couverture stylisée. On voit un camion de profil au loin, au crépuscule, en train de fendre la nuit. Mais pourquoi Jean-Claude Raspienjas s'est-il emparé de ce sujet ? En fait, l'histoire a commencé dans un restaurant routier. L'idée d'un reportage sur le plus grand restaurant routier de France.
Je passais régulièrement devant, c'est près de Châteauroux, sans jamais y être entré. Et je me disais, mais c'est quoi la vie d'un établissement comme celui-là ? Donc, je suis parti en reportage là-bas. Et naturellement, j'ai rencontré des routiers dès le premier soir. Je suis resté plusieurs jours et plusieurs nuits. Et dès le premier soir, quand j'ai parlé avec les routiers, dans toutes les conversations, il y avait un mot qui revenait tout le temps. C'était le mot de mépris. C'est-à-dire qu'ils se sentent méprisés partout. Ils se voient méprisés. Ils se vivent méprisés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là ?
Ah ben oui, qu'est-ce qui se passe alors, Nicolas ?
Eh ben ça, on le comprend au fur et à mesure de la lecture, mais il y a la conscience écologique, par exemple, qui les ramène au rang de pollueurs. On oublie au passage que s'ils sont sur les routes, c'est parce qu'on les y envoie pour trimballer nos marchandises. Et puis, malgré leur taille et leur omniprésence, on ne les voit plus aujourd'hui, les routiers. Ils ont perdu un peu du mythe qu'ils représentaient, l'idéal de la liberté de tracer la route.
Mais c'est une analyse sociale ?
Alors, un peu, mais pas seulement, ce sont des moments de vie surtout. Il est avec eux, Jean-Claude Raspienjas, même s'il ne se met pas directement en scène, mais il est avec eux avant, pendant, après la route. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne vient pas comme ça 2-3 heures et merci, au revoir. Il a essayé de les connaître intimement. Et nous, bah, du coup, on les connaît un peu à force aussi et on apprend les codes et la langue qui se parle chez les routiers.
Ils ont des rites, ils ont un folklore, ils ont évidemment un vocabulaire à eux. Et quand vous rentrez dans ce monde, évidemment, la moindre des choses, c'est d'essayer de comprendre cette langue et de la restituer. Et c'est vrai qu'ils ont forgé au fil du temps, un vocabulaire qui leur est propre et qui est tout à fait imagé. Par exemple, pour parler de leur obésité, ils parlent de cabine avancée, ils disent « j'ai la cabine avancée ». La remorque derrière un camion, la remorque qu'on traîne, on appelle ça la belle-mère. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. Il y a une part d'ironie, d'humour liée à leurs conditions.
Et à propos de belle-mère, il y a des pseudos aussi.
Ben oui, bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est important. Il y a Toupinette, il y a Pierrot 64, il y a Maya 972. En fait, c'était les noms de Sibi, ça.
Mais oui.
La Sibi qui a disparu. Et ça aussi, c'est un problème, puisque leur univers s'est un peu restreint à cause de ça. Mais enfin, vous lirez le livre, un livre très délicat, très respectueux, très beau et instructif, mon cher Fifi 75.
C'est moi. Merci beaucoup, Nicolas Caro 28. Les routiers sont sympas. On vous retrouve, on les retrouve dans Routiers, donc c'est aux éditions de l'Iconoclaste. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Ça vous tente, c'est un livre sur les routiers?
Oui, la façon dont il en parle donne envie, effectivement. Et puis, effectivement, c'est un monde qu'on ne connaît pas. On a une vision un peu caricaturale de ce routier qui nous précède, qui nous double, qui nous frôle comme ça, qui a l'air de maîtriser son monde. On fait partie de... Sur les autoroutes, on est souvent oppressé par le monde des routiers, mais...
Justement, il y a un moment très intéressant peut-être. Dans le livre. Il y a un moment intéressant où le routier explique que, parce qu'il vient de se prendre une queue de poisson et il klaxonne pas. Et donc Jean-Claude Raspienjas lui demande pourquoi. Il dit non, ça sert à rien. En fait, les gens, que je klaxonne ou pas, ils s'en foutent maintenant. Plus personne fait attention à nous. Et ça révélait quelque chose de comme ça, de l'invisibilité aujourd'hui des routiers.
Nous, on fait attention à vous. Merci beaucoup, Nicolas Caro.
Moi, je fais attention aux routiers quand ils sont là. Hein.
Moi aussi.
Vois, hein.
Surtout en scooter. Donc... Vous restez avec nous, Inky Bilal.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Enki Bilal est l'invité de Culture Média. On va revenir à son actualité dans un instant, Philippe. Mais avant, comme promis, on découvre une mini-série avec Margot Barallon.
Quoique l'actu d'Enki Bilal, c'est aussi les séries parce qu'il aime beaucoup ça. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous conseillez d'allumer la télévision ce soir à 20h55 sur Arte.
Oui, la chaîne diffuse une mini-série portugaise qui s'appelle Le Domaine. Et quand je dis mini, c'est vraiment mini. Hein. Il y a seulement 3 épisodes.
Ah oui.
Hommage à ceux qui n'ont jamais le temps de regarder les séries. Alors vous allez voir, c'est un mélange de saga familiale et historique. Alors le domaine du titre, c'est celui de Joan Fernandes, je parle sous le contrôle de Céline Dacosta pour le portugais, un riche propriétaire terrien. Donc nous sommes dans la campagne portugaise en 1973 et ça fait donc 40 ans que le pays est soumis à la dictature salazariste. Alors Joan, lui, il est plutôt du côté de la liberté de penser. Il va donc régulièrement repêcher ses salariés lorsqu'ils se font arrêter par la police pour leurs opinions politiques.
C'est un malentendu. Monsieur l'inspecteur, un de mes hommes de confiance a disparu et il serait ici.
Vous en êtes certain?
Qu'il est bien ici?
Non, qu'il s'agit d'un malentendu. Lionel Souza, nous le surveillons depuis un bon moment du fait de ses activités subversives. Comment expliquez-vous la présence d'un communiste sur votre domaine, monsieur Fernandez?
Je m'en fous de ça. Lionel est un bon mécanicien, il répare tout. Il est temps de le libérer.
Alors, sauf qu'au début de la série, hein, ça commence à bouger politiquement. Nous sommes au bord de la révolution qu'on a appelée la révolution des œillets, celle qui a renversé la dictature au Portugal en 1974.
Et jusqu'au 25 avril. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette série, Margot? Qu'est-ce qui vous a plu?
Eh bien, en fait, elle reprend un schéma hyper classique qui est celui de la petite histoire familiale dans la grande histoire, celle d'un pays. Mais elle fait ça très bien. Vous allez avoir donc le côté saga familiale avec les haines diffuses, la question de la transmission à la fois du domaine et puis des secrets trop lourds à porter sur des génération. On a un personnage principal complexe, donc intéressant. C'est à la fois un homme qui refuse de collaborer avec un régime autoritaire et en même temps un type assez détestable, notamment avec sa femme et son fils. Donc ça, c'est pour l'intime. Et puis en toile de fond, l'évolution de tout un pays avec forcément des gagnants et des perdants. On ne peut pas dire, par exemple, que le beau-père de Joan, qui était général salazariste, soit super content de la révolution.
Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse en arriver là un jour. Autrement, il y a bien longtemps que je serais parti. Ils s'arrêteront pas là. Ils vont tout nationaliser. Tout. Ils vont s'approprier les banques, les entreprises, les propriétés.
Et voilà, en fait, Le Domaine, c'est une série crépusculaire, vraiment l'histoire de la fin d'un monde, la fin d'une certaine aristocratie qui est incapable, en fait, de s'adapter et de s'insérer dans la société moderne.
Et sur la forme, ça ressemble à quoi?
Alors, le réalisateur, il s'appelle Thiago Guedes, et c'est un grand fan de western spaghetti, les westerns italiens, et ça se voit tout de suite. C'est magnifiquement filmé, que ce soit dans les grands espaces à l'extérieur ou dans les scènes d'intérieur. Il y a une maîtrise impressionnante, notamment de la lumière, avec des jeux de clair-obscur. La série n'utilise quasiment pas de musique, donc vraiment tout est dans la mise en scène et l'image est superbe. Donc si vous ratez Le Domaine ce soir sur Arte, eh bien jetez-vous sur le replay puisque les 3 épisodes seront disponibles sur arte.tv jusqu'au mois de juillet.
Merci beaucoup Margot Barallon, puis ça vous parle ça, oui. Enki Bilal, la fin d'une dictature.
Oui, ça, ce sont des thèmes qui me concernent, qui me passionnent et qui nous concernent tous.
Voilà. Hein, je veux dire. Vous êtes fan de séries ?
Oui, je trouve qu'effectivement la série est devenue un moyen de raconter très profond, beaucoup plus, sans doute qui a ringardisé un peu le cinéma, ce qui est un peu dommage aussi, mais c'est vrai qu'on a le temps dans l'écriture d'entrer dans les personnages et puis il y a une forme d'addiction qui se crée.
Et vous en avez
une grande qualité. Pardon.
Vous n'avez pas un projet de série ?
Si, si. Je suis en train de travailler sur Bug, l'adaptation pour France Télévisions, qui sera internationale. Hein. Donc, je suis en pleine écriture de ça en ce moment, avec Dan Franck. Et puis, je regarde énormément les séries aussi, bien sûr.
Plein de questions encore à vous poser. Vous restez avec nous, Enki Bilal. Merci,
oui,
Margot.
Pour la dernière partie de Culture Média, qui est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
C'est la dernière partie de Culture Média avec notre invité Enki Bilal, qui a une riche actualité dans son livre Nu avec Picasso, sorti dans la collection Manui au musée chez Stock, Philippe.
Et dans ce livre, il y a des considérations qui m'ont laissé perplexe. Par exemple, celle-ci, le rôle des artistes, j'attends que la musique se... Le rôle des artistes, écrivez-vous, c'est de transmettre les crachats des uns et des autres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oui, mais alors là, je vais faire comme les hommes politiques, je vais dire, vous sortez ça du contexte.
Bah, bien sûr.
Alors, c'est un peu compliqué, donc il faut que j'explique. Non, c'est qu'à un moment donné, si on parlait de recracher un imaginaire, quelque chose, donc simplement, je me suis emparé de ce terme qui m'était venu comme ça, et je l'ai gardé, parce que je trouvais assez incroyable de se dire qu'on se repasse un crachat pour le restituer à quelqu'un d'autre. C'est, en fait, c'est une espèce de... À la limite, moi, vient de l'homme de Lascaux, peut-être premier artiste, c'était ça.
Mais pourquoi vous appelez ça un crachat ?
Non, c'est parce qu'il s'est recraché.
Ah d'accord.
Et le mot recracher, le verbe recracher, ça n'est pas du tout crachat. Alors effectivement, quand on met crachat, ça est sorti du contexte, ça fait vulgaire. Or ce livre n'est absolument pas vulgaire.
Pour certains, Enki Bilal, vous avez un statut d'oracle. Dès 80, par exemple, dans La Forêt aux Immortels, vous parlez de risques d'épidémie qui imposaient un confinement entre quartiers. En 83, vous annonciez la fin du communisme. En 98, dans Le Sommeil du Monstre, vous avez dessiné le 11 septembre. Est-ce que vous aviez vu venir le coronavirus ?
Je l'ai vu sans doute plusieurs fois au cours de tout ce que vous évoquez. C'est une thématique qui est absolument pas originale hein, dans le monde de la prospective et du regard vers l'avant. Mais j'ai toujours écarté l'idée de traiter le sujet parce que je trouvais anxiogène. Je trouve qu'il ne laisse aucune place à l'imagination. On est face à quelque chose qu'on ne voit pas, qui est dangereux, qui tue. Les héros, on les connaît. Les héros, ce sont les médecins. On en a eu la preuve au cours de ce confinement. Et les chercheurs, quand ils trouvent le vaccin.
Ouais.
C'est un sujet anxiogène. Je trouve que c'est absolument intraitable, de mon point de vue. Donc, je préfère traiter un autre virus, mais informatique. Là, on a plus d'espace et plus de liberté.
Et le résultat était un petit peu même, puisque les avions étaient cloués au sol. Comment vous avez vécu le confinement ?
Très bien. Alors, oui, mais en fait, ça n'a pas changé grand-chose, parce que je passais de mon atelier à chez moi. Lorsque je suis en pleine activité, entre guillemets, de création, ma vie est relativement
confinée.
Je suis confiné dans ma propre création. Donc, je passais de l'atelier à chez moi, c'est 3 minutes, 4 minutes à pied, en plein centre de Paris. Et c'était extraordinaire. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de voiture. Et puis, sur les terrasses, il y avait des oiseaux qu'on n'avait jamais vus, qui venaient vivre. Enfin, on avait la vie, tout d'un coup, qui reprenait. Alors, est-ce qu'on vit lorsqu'on est dans cette folie ? Je ne crois pas.
J'allais vous poser la question, vous venez de répondre. Phrase de vous qui m'a interpellé, c'est dans Le Point, le 15 avril. Vous avez dit, elle est intéressante cette histoire de pangolin. Et je me suis dit, pourquoi c'est intéressant de dire, est-ce que vous aviez déjà dessiné un pangolin ? Est-ce que vous êtes mis à essayer de le dessiner ?
Non, jamais. Et jamais, mais c'est un animal fascinant, hein, quand même, une espèce de truc sorti de la préhistoire.
Ce qu'il faut le dire, c'est un mammifère qui a des écailles. Ce sont des poils
écailles
tellement rapprochés que ce sont des écailles.
Ah, je ne savais pas que c'était
mais
des poils.
Mais c'est un mammifère, et le pangolin, c'est petit.
Absolument, donc c'est très étrange comme forme. Ça vient d'Afrique, principalement, on en trouve en Asie. Et les Chinois les bouffent. Ça, c'est consternant, mais c'est comme ça.
Les bouffaient peut-être.
Les bouffes, pardon.
Peut-être que ça va changer. Peut-être que c'est de l'imparfait, peut-être qu'ils vont arrêter.
Ils vont arrêter, je pense qu'il y a une loi qui est passée, il ne faut pas toucher, il ne faut pas manger n'importe quoi. C'est une belle loi.
La loi
ne pas manger n'importe quoi.
Ça a été circonscrit au chat et au chien quand même, la loi, c'est quand même assez spécial. Ouais, ouais. Juste un tout petit mot, il y aura une expo qui va vous être consacrée cet été à Landerneau par le fonds Hélène et Édouard Leclerc. On verra quoi ? Il y aura quoi ? Des dessins, des inédits ?
Il y aura une espèce de, pas une rétrospective, mais un choix un peu thématique d'œuvres, de bandes dessinées, de peintures, illustrations, extraits de films, mise en abîme avec des œuvres d'artistes autre que moi, mais ouais. Venu d'un passé très lointain, donc dont Goya. Donc je suis très fier d'avoir un original de Goya exposé dans mon exposition.
Waouh, ouais. Wow, un Goya et un Bilal, ça sera à Landerneau. Merci d'avoir été avec nous, Inky Bilal. Je rappelle, Nu avec Picasso, c'est chez Stock, dans la collection Magnum Musée. Et puis nous, demain, dans Culture Média, nous serons avec le producteur Georges-Marc Benhamou, qui a interviewé, qui a fait des documentaires autour de la fonction terrible de Premier ministre, et puis le réalisateur Nicolas Vanier pour un livre qui fait voyager. Salut, Céline Dacosta. À demain.
À demain, Philippe Vandel.